RMC, face aux grandes gueules.
Face au GG, Sébastien Martin, ministre de l'Industrie. Bonjour, monsieur le ministre.
Bonjour.
Voilà, c'est mieux avec le micro ouvert. Est-on face à un nouveau choc pétrolier, monsieur le ministre ?
On est aujourd'hui face à une crise majeure. On n'est pas encore face à un choc pétrolier comme on l'a connu dans les années, la fin des années 60 et années 70. On est encore dans une crise. La question du choc, elle viendra effectivement si à un moment ou à un autre, cette crise dure trop longtemps et que nous avons des problèmes.
Ça fait déjà un mois quand même.
Oui, ben écoutez, on a connu des crises par le passé qui ont duré beaucoup plus longtemps. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les émissions que l'on a, avec les réseaux sociaux, avec tout ce que l'on veut, on a l'impression que quelque chose qui dure depuis 3 semaines dure depuis finalement des mois. Mm-hmm. Pour l'instant, ça fait 1 mois que cette crise a démarré. Et bien évidemment, enfin, faut pas se voiler la face. Si les choses durent comme ça jusqu'à l'été, qu'on est privé d'approvisionnement d'à peu près ce qui représente 20% de l'approvisionnement, c'est sûr qu'on ira vers une situation qui sera plus qu'une crise.
Pardon, monsieur le ministre, mais le prix du gazole n'a jamais été aussi haut depuis au moins les années 80. L'inflation est en train de repartir là. Le prix des matières premières explose, l'activité économique va reculer, on le sait, et on a l'impression que le gouvernement observe et prie chaque matin que la guerre s'arrête, sans aucune autre mesure d'accompagnement précise, à part quelques aides très ponctuelles, parce qu'on nous explique qu'on n'a plus d'argent. C'est ça un gouvernement, c'est de regarder passer les trains?
Je pense que vous savez très bien compter, parce qu'on a dit c'est des miettes. Mais attendez, on a annoncé des aides pour 1 mois. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si la crise continue,
pour les transporteurs.
Attendez, si la crise continue, ça veut dire que ces aides seront reconduites. Donc, si je ne m'abuse, 70 millions d'euros sur 1 mois, si ça doit durer plus d'un an, si ça doit durer 1 an, on sera à 850 millions d'euros. Si d'autres professions doivent être accompagnées, en fait, au final, sur une année, on sera à 1 milliard d'euros qu'il faudra essayer de trouver pour accompagner les professions dites qui sont en difficulté ou qui traversent une difficulté. On a le côté raisonnable de dire que cette crise, on souhaite qu'elle ne dure pas éternellement.
Oui,
malheureusement, il ne semble pas que ce soit la France qui l'ait déclenchée.
D'accord.
Ça serait bien aussi de rappeler ceux qui l'ont déclenchée, ce que j'entends pas beaucoup sur les plateaux, ce que j'entends pas beaucoup de la part de ceux qui nous tapent dessus toute la journée, notamment le Rassemblement National. Et Madame Le Pen, je vous rappelle, c'était la première à vouloir faire un selfie avec Monsieur Trump. Donc, il y a un moment.
Enfin, le jour où le régime des mollahs tombera, vous serez le premier à vous en satisfaire.
Pardon?
Si le régime des mollahs tombe, vous serez le premier à vous en féliciter.
Mais personne ne se satisfaisait de ce régime.
Mais
ce qui est important, c'est d'avoir une stratégie quand même. Or, on voit bien que la stratégie, elle pose question.
D'accord, mais néanmoins, moi je vois les voisins espagnols, italiens, ils ont pris des mesures beaucoup plus importantes.
Ils annoncent des budgets sur l'année.
Ils
annoncent des mesures qui sont des budgets débloqués
leur permet aussi
sur l'année.
Vous
voulez qu'on parle de l'Italie et de l'Espagne ? Je vais vous parler de l'Italie et de l'Espagne. L'Italie et l'Espagne, en ce moment, effectivement, ils ont un déficit budgétaire qui est moins élevé que le nôtre. La seule différence, c'est qu'en ce moment, ils sont à plein bénéficiaires du plan de relance européen post-Covid. La France a eu 70 milliards qui lui ont accompagné au lendemain du Covid. Et c'est vrai qu'on en a fait un bon usage. L'Espagne, c'est 120 milliards. L'Italie, c'est 200 milliards. En ce moment, en Italie, vous avez sur la dépense publique de l'Italie 30 ou 40 milliards qui sont payés par l'Europe. Mmh. Et on voit bien que malgré ça, ils n'arrivent pas à avoir un déficit public qui est en dessous de 3%. Et que les mesures qu'ils prennent sont annoncées pour l'année.
Parce que nous, on est au-dessus de 5.
L'année prochaine,
on est la lanterne rouge
l'année
de l'Europe
prochaine, vous réinviterez et on verra à quel niveau sera le déficit public italien quand il n'y aura plus 30 ou 40 milliards de fonds européens pour financer l'économie italienne. On regardera ça de très près l'année prochaine.
Antoine Diers, Laura Barton-Martinez, Bruno Poncet, qui se lance? Antoine?
Moi, je me lance. On a le sentiment dans notre pays qu'il n'y a pas de politique énergétique. C'est-à-dire qu'on est, on est très impacté tout de suite par le choc pétrolier. Moi, je suis dunkerquois avec des grosses industries très électro-intensives. On n'a pas suffisamment développé le nucléaire. Et partout dans le monde, Trump, on l'évoquait en premier, a conscience que l'énergie, c'est l'économie. L'énergie peu chère, c'est une économie qui fonctionne. Mais justement, le nucléaire n'est même pas vendu aussi peu cher qu'il pourrait l'être. Et donc, moi, j'ai envie de poser une question au ministre de l'Industrie que vous êtes aujourd'hui. C'est quelle est la stratégie française d'énergie pour avoir une énergie peu chère disponible pour nos acteurs économiques?
Je pense quand même que sur ce débat, sur ce plateau, vous avez dû débattre de la fameuse programmation pluriannuelle de l'énergie. Mmh. Ça ne m'a pas échappé. En ce moment, moi, ce que je vois surtout, c'est que toute l'Europe peut dire merci à la France. Parce que si on n'avait pas les centrales nucléaires d'EDF qui tournent à plein régime. Mm-hmm. Aujourd'hui, avec EDF qui exporte de l'électricité.
Pourquoi nos acteurs économiques ne bénéficient pas du choix stratégique français en ayant une électricité peu chère?
Excusez-moi, parce que l'électricité en ce moment en France, elle est plus chère qu'en Allemagne? Non, elle est moins chère.
Elle est à peine moins chère.
Non, elle est beaucoup moins chère.
Elle est à peine moins chère.
Elle est beaucoup moins chère.
Elle pourrait être moins chère.
Alors, allez voir un ménage allemand et allez lui demander sa facture d'électricité par rapport à un ménage français.
Quand on parle même des acteurs économiques, on arrive à négocier.
Les Allemands vont mettre 3,5 milliards sur la table pour essayer de se rapprocher de notre tarif. Pour qui? Uniquement pour les hyper électroniques. Vous parlez de Dunkerque?
Ouais.
Non, mais attendez, je vous réponds. Vous parlez de Dunkerque. Les hyper électro-intensifs, c'est Dunkerque.
Ils vont négocier leur tarif avec vous.
Ouais, qu'est-ce qu'ils ont fait?
Et le petit Dunkerque, boulanger, il ne peut pas le négocier.
Mittal, il a négocié avec EDF. Il a un contrat de long terme pour plusieurs années. Et je pense que s'il n'avait pas un bon contrat, il ne l'aurait pas signé pour 10 ans ou 12 ans. Excusez-moi, je n'ai plus exactement le chiffre en tête. Les Allemands, je le redis, vont mettre 3,5 milliards. Aujourd'hui, ils ont un coût de l'énergie qui est deux fois le nôtre. Les industriels ont un coût de l'énergie qui, après ces 3,5 milliards, peut-être l'année prochaine, sera encore plus de 12% supérieur au nôtre, uniquement pour les hyper électro-intensifs, c'est-à-dire une grosse centaine de sites industriels. Tout le reste est bien plus cher que l'électricité en France. Alors moi, je veux bien recevoir des leçons de la terre entière, mais nous avons fixé le cap.
Quelle est la stratégie française pour avoir une énergie bon marché pour soutenir notre économie?
La stratégie française, c'est le cap de l'électrification, monsieur. Parce que à moins
donc
que
le nucléaire,
à moins donc,
pas seulement,
nucléaire,
donc on doit payer moins cher notre électricité nucléaire et on doit sortir de l'arène. Pardon pour
non,
le consommateur.
Non, mais l'arène, ça n'existe plus, monsieur. Ah bah, l'arène, sortir de l'arène.
Vous expliquez de quoi il s'agit.
L'arène, ça n'existe plus.
Du tarif.
Vous voulez dire sortir du système européen de l'énergie. Je pense que c'est ça que vous vouliez dire, pas la reine.
Pardon, les Français, entreprises, vous tournez autour du pot, les Français, entreprises comme particuliers,
les Français,
payent l'électricité
non,
trop cher.
Les Français, entreprises comme particuliers, aujourd'hui, payent leur électricité moins cher, ce qui peut arriver.
Pas au prix du nucléaire français.
Ce qui peut arriver, et ce qui arrive très marginalement en ce moment. Pourquoi? Parce que justement, nos réacteurs nucléaires tournent à plein et que nous exportons. Qu'est-ce qui s'est passé en 2022? Parce que là, vous faites la référence à 2022. En 2022, nos réacteurs tournaient à peine à 50%. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Plus de centrales à gaz étaient ouvertes. Il ne vous a pas échappé qu'en 2022, Monsieur Poutine, encore un ami de Madame Le Pen, avait coupé les robinets et que avait coupé les robinets et que donc le gaz pesait de manière beaucoup plus importante sur le mix électrique. Aujourd'hui, le gaz pèse extrêmement marginalement.
Quelle est la stratégie? Moi, j'aimerais bien entendre le ministre de l'Industrie nous dire il faut absolument qu'on développe le nucléaire français, qui est notre chance, etc.
Ah, mais je croyais que ça allait de soi. Donc, je vais vous le dire parce que je suis élu en plus du territoire dans lequel j'ai deux usines Framatome, que nous développons massivement le nucléaire, que nous avons décidé de refaire 6 EPR2 supplémentaires et que nous prendrons la décision à la fin de l'année de savoir si nous en faisons 8 de plus. Parce que oui, l'électrification, oui, le nucléaire est la base de notre mix énergétique. Simplement, on a aussi dit qu'il fallait aussi du renouvelable à côté parce que les premiers EPR seront livrés en 2038. Et que donc, en attendant pour pouvoir monter la compétence en électricité, nous nous appuyons aussi sur le renouvelable en ayant fait une part moins importante peut-être à l'éolien terrestre qui pose des problèmes d'acceptabilité par la population et par contre en développant l'éolien maritime et en gardant du photovoltaïque.
On a l'hydroélectrique qui marche plutôt pas mal aussi en France.
Avec l'hydroélectrique, avec un système qui consiste à re-remplir en amont en fait les réservoirs des barrages pour pouvoir produire de l'électricité plus régulièrement avec les barrages.
Mais on a deux chiffres là qui sont arrivés à quelques jours d'intervalle, on a des prévisions de croissance qui sont un peu revues à la baisse et puis on a une inflation qui repart.
Bien sûr.
Donc ça, c'est quand même pas bon pour notre moteur économique, plus cette crise que l'on connaît dont on ne mesure pas encore les effets à moyen terme. Et tout le monde souhaite que ça s'arrête assez vite, la guerre au Moyen-Orient.
Donc on a une économie
qui patine là un petit peu.
Il y a plusieurs choses, mais ça, ce sont des chocs extérieurs qu'on essaye du mieux possible d'absorber comme on le peut, parce que vous l'avez dit, la crise iranienne, elle dépend pas de nous. Le choc pétrolier, entre guillemets, le choc de l'impact du pétrole, il dépend pas de nous.
La situation économique n'était pas très très bonne. C'est-à-dire que si on était dans un pays qui nous avec moins de dettes, moins de déficit, on pourrait peut-être amortir ces chocs beaucoup mieux.
On est aux grandes gueules, donc on peut avoir
un débat vif,
un peu plus léger, pas plus léger, mais franc et direct. La France a connu une année de récession depuis la crise du Covid 2020.
Non, on a une faible croissance, mais qui est
d'accord,
pas suffisante.
Combien l'Allemagne chômage, dites-moi chômage. L'Allemagne. Ah, l'Allemagne
c'est
qu'on voit tout le temps en exemple.
Ah, c'est moins bien.
Récession, oui. Récession. Oui, oui.
Enfin,
et cette
on
année,
toujours se comparer aux mauvais élèves.
L'Allemagne. Eh ben, autant se comparer aux bons élèves. Oui. Excusez-moi, les Allemands ont toujours été les bons élèves.
L'Espagne, par exemple, est plutôt. Mais l'Espagne a fait des réformes. Ah, c'est sûr, ils ont demandé aux Espagnols de travailler un peu plus pour toucher la retraite.
L'Espagne.
On a suspendu la réforme des retraites.
L'Espagne a eu des années de récession.
Oui, et ensuite des années de réformes difficiles.
Et aujourd'hui, par quoi est tirée la croissance espagnole ? Par un marché intérieur et une consommation qui est relevée, parce qu'ils ont une forte population qui arrive d'Amérique du Sud. Ils ont 1,5 million de population qui arrive d'Amérique du Sud, qui est une main d'œuvre qui arrive dans ce pays pas forcément très chère, parce qu'en plus le coût de la main d'œuvre en Espagne n'est pas très élevé, et qui alimente en plus une consommation intérieure importante et qui explique une part de leur croissance. Plus, et moi je m'en réjouis, parce qu'ils sont aussi axés vers l'industrie, qu'ils ont envie de développer des projets industriels.
Et le tourisme, qui fait beaucoup tourner l'économie espagnole.
Et le tourisme
espagnole
qui
aussi.
Participe à l'économie espagnole.
Bruno Poncet.
On peut quand même vous dire que...
Je
ne vais pas vous faire plaisir, mais votre chèque carbone, vous êtes en train d'envoyer aux Français, on peut quand même vous dire que ce n'est pas une bonne idée. En fait.
Le chèque énergie, en fait, c'est un chèque qui existait déjà.
Ouais, non, mais à un moment donné, il faut que ça s'arrête, parce que mine de rien, vous dites ça va toucher 3,8 millions de foyers, 6 millions de personnes. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, ne serait-ce que sur l'énergie, là on va parler un peu malheureusement de l'essence, avec ce qu'il y a aujourd'hui, mais tous les Français sont impactés. Moi, j'ai la chance d'habiter dans une grande ville, j'habite à côté de Paris, je prends les transports tous les jours, ma voiture, c'est vraiment un truc d'appoint. Sauf que la plupart des gens ont besoin de leur voiture pour aller au travail, pour trouver du travail, pour les enfants et tout. Moi, je trouve que ça aurait été quand même plus juste et moins inique de faire quand même de descendre le prix à la pompe pour tout le monde plutôt que d'envoyer des chèques à qu'une portion incongrue de la population française, en fait.
Bah, des chèques pour. Enfin, baisser les prix à la pompe pour tout le monde, ça veut aussi dire que vous en faites bénéficier à une part importante de la population qui, elle, peut surmonter ce moment difficile.
Donc, en fait, c'est celle qui consomme,
nous essayons plutôt d'avoir des mesures ciblées. Pour le moment, on s'est fixé sur certaines professions particulièrement utilisatrices de leurs véhicules.
Les transporteurs.
Hier, nous avons fait un point avec le Premier ministre, avec le ministre des Transports, avec d'autres membres du gouvernement, sur d'autres populations qui, éventuellement, aujourd'hui, commencent à poser des difficultés. On a pris des décisions pour le mois d'avril. Celles-ci seront adaptées à la réalité de la situation. La politique qui consisterait à dire « Allez, on ouvre les vannes massivement en faisant les mêmes mesures pour tout le monde » ne nous semble pas être la bonne des définitions.
Vous savez très bien que les carburants français sont quasiment les plus taxés d'Europe. Donc là aujourd'hui, quand on a la chance d'habiter près de la frontière espagnole ou près de la frontière italienne, on paye moins cher. Est-ce que c'est normal pour le même produit de payer autant, d'avoir 60% de taxes sur les carburants ?
Alors, je voudrais juste apporter une précision dans ce qui est la taxe. Parce que quand vous dites 60% de taxes, c'est pas vrai.
Ah !
C'est pas vrai à l'heure à laquelle nous parlons. Parce que la composition... c'est important que les auditeurs comprennent bien. Parce que la composition de la fiscalité sur les carburants, la part la plus importante, en fait, est une part fixe, autour de 60 centimes. C'est ce qu'on appelle les accises. Voilà, ça, c'est une part fixe. Donc, le carburant, ça va à 2,20 € ou à 1,65 € ou à 1,70 €. Il y a cette accise qui, elle, est fixe. Après, ce qui varie, c'est la TVA. Mais la TVA ne représentait que moins sur le produit fiscal que moins d'un tiers, 20%, comme vous le dites. Donc, au final, aujourd'hui, quand le prix du carburant, la proportion de la fiscalité n'augmente pas, elle n'est pas à 60%. En fait, elle est passée en dessous de 50%. Je ne vais pas vous dire que c'est pas trop, que ce n'est pas ce que vous entendrez. Mais ce n'est pas ce que vous dites. Ce n'est pas ce que vous dites.
Sur 2 euros, c'est 1,20 € pour l'État.
C'est 60%.
Non, parce que je viens de vous expliquer qu'on était en dessous de 50%, donc 2 euros, 1,20 €, ça fait plus de 50%, excusez-moi. J'essaye de compter rapidement.
Oui, d'accord,
mais on paye toujours plus cher que nos voisins espagnols, italiens.
On paye
pour le même produit.
On paye plus cher que nos voisins espagnols ou italiens. On paye moins cher que nos. On paye moins cher que les Allemands.
Ah oui.
Je sais pas par rapport aux Belges, j'ai pas tous les pays.
C'est quand ça vous arrange.
Effectivement. Pardon ?
J'ai l'Allemagne en exemple et contre-exemple, c'est quand ça vous arrange.
Ah non, j'ai tout le temps pris en exemple l'Allemagne et c'est pas un contre-exemple.
Oui, aujourd'hui, mais c'est quand même.
Alors, monsieur le ministre de l'Industrie, vous restez avec nous puisqu'il parle franchement. Il répond franchement au GG. Sébastien Martin, ministre de l'Industrie, en direct du Salon Global Industrie ici à Villepinte. À tout de suite.
RMC. Alain Marchal, Olivier Truchot. Les grandes gueules.
GG, les grandes gueules sur RMC, RMC Story, surtout les grandes gueules en direct du Salon Global Industrie, ici à Villepinte. Nous sommes avec Bruno Poncet, le cheminot, Laura Varton-Martinez, sophrologue, Antoine Diers, qui est consultant juridique, et nous sommes surtout avec le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin.
2300 exposants ici, 60 000 industriels attendus, beaucoup de jeunes également, pour expliquer à la jeunesse française que les métiers d'industrie sont des métiers d'avenir. On est souvent d'ailleurs mieux payé dans ces métiers-là que dans d'autres métiers, notamment les métiers de service. Et quand on parle de l'industrie française, c'est assez mitigé parce qu'il y a des choses qui marchent très bien. L'armement, le médical, l'agroalimentaire, d'autres qui sont en grande difficulté, notamment l'automobile, on va y revenir. Mais est-ce qu'on a toujours cette vision négative de l'industrie en France? On a toujours ça en tête?
Bah, c'est vrai que parfois il y a un peu l'image d'Épinal de l'industrie. L'industrie, ça serait pas propre. L'industrie, c'est ancien. L'industrie, ça pollue, etc. Bah,
c'est un peu ce qu'on a mis dans la tête des gens pendant les années, et on s'est désindustrialisé quand même.
Bah oui, finalement, c'était peut-être le moyen de faire passer la pilule, je sais pas, d'expliquer que c'était pas bien. Mais en même temps. Ça a accompagné effectivement un mouvement de désindustrialisation, donc un flux qui était assez négatif. Ce qui explique aussi pourquoi. Vous savez, il faut du temps pour reconquérir aussi une forme d'acceptation et reconquérir les esprits en faveur de l'industrie. D'ailleurs, hier, je me suis amusé. J'ai fait un petit sondage là, lorsqu'on était sur la grande scène. On était à Global Industrie. J'avais en face de moi pratiquement que des chefs d'entreprise de l'industrie. Je dis, au fait, parmi vous là, combien ont leurs enfants qui sont dans des filières scientifiques et techniques? Et d'ailleurs, ça m'amuserait de faire le même sondage ici. Et là, je me suis rendu compte qu'il y en avait bien moins d'un sur deux qui avaient leurs enfants dans les filières scientifiques et techniques.
Et donc, pourquoi?
Parce que finalement, après tout, on va aller faire plutôt une école de commerce, on va plutôt aller faire du droit. C'est très bien le droit, hein, j'ai pas de problème avec ça, il en faut aussi. Plutôt que de se dire, mon gamin, il a de la place dans l'industrie, qui est mieux payé. Les salaires dans l'industrie, c'est 20% de plus dans les services, si je mets à part la finance. Parce que la finance est vraiment très très à part, voilà. L'industrie, c'est de l'emploi partout dans les territoires. C'est pas forcément des gamins qui ont besoin de quitter leur territoire.
On manque d'ingénieurs en France d'ailleurs.
On manque d'ingénieurs, et en plus, on forme pas suffisamment d'ingénieurs, et on a une part trop importante des ingénieurs qui ne restent pas dans l'industrie et qui vont plutôt aller dans la finance. Alors, et ça, c'est un vrai sujet.
L'industrie moderne, monsieur le ministre, il y a quand même peu d'emplois qualifiés, ou de moins en moins d'emplois en dehors des ingénieurs. C'est très robotisé, etc. Donc c'est là où l'enjeu industriel aujourd'hui, il est peut-être un peu décorrélé de l'enjeu de l'emploi.
Qu'en réalité, l'avenir de l'industrie, à travers l'utilisation des nouvelles technologies, au contraire, va demander sans doute un niveau de qualification plus élevé. Parce que finalement, aujourd'hui, un conducteur de ligne, c'est plus quelqu'un qui juste vérifie que les machines fonctionnent, mais c'est bien quelqu'un qui va devoir avoir quelques compétences.
Mais donc c'est,
en
c'est
termes
que de l'emploi massif, c'est de l'emploi qualifié. Faut être clair avec les Français, on n'est pas en train de recréer des emplois pour ceux qui n'auraient pas de qualification.
Non, mais attendez, l'industrie, elle a évolué. Vous dire, demain, j'implante une méga-usine avec 10 000 emplois, comme c'était le cas, ça a complètement changé. Mais c'est aussi un enjeu, parce que vous prenez en Asie aussi, ils robotisent, en Asie aussi, ils modernisent. Et puis, vous savez, on a aussi un enjeu démographique, qui fait qu'on a un pays qui vieillit, et donc avoir des emplois avec plus de compétences et plus modernisés, c'est aussi une réponse à ça.
Et on a un enjeu de transition pour ceux qui travaillaient dans l'ancienne industrie, réussir à former, à requalifier au cours de la vie. Et là, je nous trouve assez absent sur la capacité à donner à quelqu'un qui a déjà un début de carrière les qualifications pour les nouvelles industries, les nouvelles usines. Je vois à Dunkerque, je sais qu'ils ont du mal à recruter du personnel qualifié.
C'est tout le paradoxe, parce qu'on se dit on est dans des bassins industriels qui ont connu à un moment des chocs et des crises. Et comment est-ce qu'on arrive à accompagner les gens vers les formations? Et vous avez raison, moi je crois qu'on a un des volets supplémentaires que là je suis... Vraiment, je veux développer ça. C'est-à-dire qu'on veut calquer sur les périmètres des territoires industriels une carte des formations qui correspondent à ces territoires industriels, et mieux s'en saisir aussi avec les entreprises. Parce qu'on attend beaucoup de l'éducation nationale, qui parfois n'avait plus ses métiers au sein de l'éducation nationale. Avec Édouard Geoffrey, on recrée des places dans les lycées professionnels. Mais je pense aussi, moi c'est ce que j'ai fait dans mon territoire à Chalon-sur-Saône, on s'est beaucoup appuyé sur d'autres acteurs. Vous avez l'UMM, qui est le syndicat de la mécanique ou de la métallurgie, qui a des centres de de formation. Vous avez des acteurs comme le Conservatoire National des Arts et Métiers, le CNAM, qui est très connu pour les cours du soir, mais qui propose des diplômes qui sont labellisés par l'État, parce que moi je me méfie beaucoup des diplômes pochette surprise. Vous avez des boîtes privées qui arrivent et qui vous dites, vous inquiétez pas, votre gamin il va avoir un super poste et c'est payé, vous payez la formation 10 000 euros l'année et puis à la fin vous avez un truc qui est absolument ni reconnu par l'État et qui n'a pas créé de compétences. Et il y a d'autres acteurs qui existent, et donc on va créer ce que je vais appeler moi des académies industrielles et technologiques. On calque sur les territoires, on fait intervenir des acteurs différents pour avoir le parcours de formation de bac moins 2 à bac plus 3.
Laura.
Oui, bonjour monsieur le ministre.
Bonjour Laura.
Moi, il y a un truc qui m'interpelle, c'est qu'en tant que ministre de l'Industrie, vous êtes le ministre également de l'Innovation. Et je trouve que malheureusement, en France, il y a... L'État stagne sur ses solutions. Donc, je vais essayer de me permettre aujourd'hui de balancer des idées. Alors, moi, je ne suis pas ministre, hein, je suis sophrologue. J'ai réfléchi dans mon petit coin. Pourquoi ne pas créer, par exemple, des zones franches d'imposition pour des entreprises qui viennent d'être créées, et en contrepartie, ces industries qui viennent s'implanter dans un territoire. Alors, l'idéal, ce serait de le faire dans des territoires ruraux où le chômage monte à la hausse. Et pourquoi pas, en contrepartie, demander à ces entreprises de financer justement les écoles d'ingénieurs de ces élèves, de financer les cours du soir pour des personnes en reconversion. Je pense par exemple à une personne qui a 50 ans, qui ne peut plus travailler comme elle travaillait avant, quelqu'un qui a bossé dans la métallurgie, que sais-je, et justement de lui payer cette formation. C'est-à-dire qu'on on remet enfin les chefs d'entreprise, les personnes qui innovent au sein de notre pays, à la barre. C'est-à-dire que c'est eux qui font tourner notre
Alors,
pays.
Alors, monsieur le ministre,
je pense que dans ce que vous dites est très vrai. On a besoin d'abord. Moi, hier, par exemple, j'ai reçu à Bercy, là, tous les industriels qui étaient ici. Il y en avait 700 que j'ai reçus à Bercy. Parce que moi, j'ai voulu leur dire aussi que ce qui s'est passé ces derniers mois, où finalement, ils en ont pris plein la gueule. On est aux grandes gueules, donc je vais dire plein la gueule. Voilà. Où on leur a expliqué pendant 6 mois, grâce à M. Zucman ou à d'autres, que tout ce qui n'allait pas dans ce pays, c'était de leur faute. Que tout ce qui n'allait pas dans le pays, c'était la faute des riches et des chefs d'entreprise. Que tout ça était tout simplement assez inacceptable. Et que les chefs d'entreprise, aujourd'hui, il faut les emmener avec nous. Alors, il y a des territoires où il y a des zones franches qui existent. Il n'y en a pas partout. Il y a ce qu'on appelle, par exemple, les zones de revitalisation rurale. C'est exactement ce que vous ciblez, qui permettent d'avoir une fiscalité beaucoup plus favorable à l'implantation d'entreprises. Il y en a un nombre très important qui permet d'accompagner, dans des zones franches, puisque la fiscalité est quasiment proche de zéro, le développement des entreprises. Il faut remettre les chefs d'entreprise à la barre sur les questions, comme vous dites, de compétences et de formation, notamment parce qu'en plus, ils en payent. Avec la taxe d'apprentissage, ils en paient. Moi, je suis très heureux, par exemple, du modèle des IUT, les instituts universitaires et technologiques. Parce que dans les IUT, le président du conseil d'administration d'un IUT, c'est un chef d'entreprise. C'est le monde économique qui est autour de la table et il doit être mieux associé. Vous avez totalement raison.
Mais une question, parce que juste avant qu'on commence l'émission, ici, on est au village de l'électronique. Discutais avec quelques chefs d'entreprise qui nous disaient la France, on est super bien positionné en ce qui concerne l'électronique. L'électronique de pointe, dans les domaines pharmaceutiques, dans les domaines de l'armement, domaine d'innovation. En revanche, en France, on a raté un virage, c'est celui de l'intelligence artificielle. On se fait bouffer par les Américains, on va se faire bouffer par les Chinois.
Mistral qui est un leader.
Oui, mais il y en a un.
Voilà, mais vous comparez les Chinois et les Américains, c'est un continent.
Je sais bien, mais c'est leur puissance de feu. Donc il y a aujourd'hui, on aurait dû mettre en place une espèce de plan, ce que font aussi régulièrement les Chinois. Un plan qui pousse l'industrie de l'intelligence artificielle. On a raté ce virage en France, hormis quelques licornes qui sont devenues des pépites, monsieur le ministre.
Alors,
ou pas
quand même, par rapport à ça, à l'innovation dont vous parliez tout à l'heure, on a quand même mis 53 milliards d'euros sur la table avec France 2030, qui a permis d'ailleurs d'accompagner Mistral ou d'accompagner d'autres entreprises de la tech ou de l'innovation dans notre pays. Par contre, je pense que effectivement, aujourd'hui, vous parliez de l'électronique et du microprocesseur. Il est certain, et d'ailleurs d'ici l'été,
ce dont on va avoir énormément besoin.
En fait, on n'a pas suffisamment sur l'électronique pris, notamment dans la question des microprocesseurs, l'orientation autour des microprocesseurs qui sont extrêmement nécessaires, plutôt à l'IA. On a de la chance parce qu'on a quand même, vous l'avez dit, des champions. ST Microélectronique, par exemple, qui est une entreprise franco-italienne, on parlait des Italiens tout à l'heure, qui est un leader en la matière et qu'on va accompagner, notamment vers le virage de l'IA.
Je voudrais parler de l'industrie automobile. On parlait de l'industrie qui fonctionne. Il y en a une qui est en grande difficulté, c'est l'industrie automobile française. En un peu plus de 10 ans, on a perdu 30% des emplois dans l'industrie automobile française. On a l'impression que on va définitivement dans quelques années se faire manger par les Chinois, sur l'électrique notamment, puisqu'ils sont en avance sur nous. Qu'est-ce qu'on a loupé? On a imposé trop de choses à nos constructeurs français à leur détriment et à l'avantage de la concurrence étrangère.
Je vais peut-être vous dire quelque chose qui va vous sembler extrêmement surprenant parce que c'est tout sauf l'idée reçue que l'on a en ce moment. Mais en fait, en ce moment, les Chinois, là où ils gagnent des parts de marché, notamment en France, c'est pas sur l'électrique, c'est sur des véhicules thermiques hybrides.
Oui.
Non mais c'est important ce que je dis là.
De toute façon, c'est l'hybride qui se vend en France, c'est pas le 100%.
C'est extrêmement important ce que je dis là. Le premier véhicule électrique en France, par le nombre d'immatriculations et de ventes, c'est la R5 électrique produite à Douai. Dans les 10 véhicules électriques les plus vendus en France, il y a zéro véhicule électrique chinois. Pourquoi ? Parce que fin 2023, et notamment à l'initiative de la France, ont été mis en place des mesures de protection anti-dumping contre les véhicules électriques chinois, qui sont passés du jour au lendemain de 60% des ventes à 10% des ventes.
Sauf que c'est l'hybride qui se vend en France.
Par contre, il n'y a pas eu la même chose. Il n'y a pas eu la même chose sur l'hybride. Sur l'électrique, aujourd'hui, on a 25% des immatriculations qui sont des véhicules électriques, et la crise actuelle fait que ça progresse d'ailleurs. Les derniers chiffres, on était plutôt autour de 30%.
Très aidé par l'État, hein. faut quand même.
C'est dans tous les pays où l'électrique s'est développée, les pays nordiques, parlons des pays nordiques, où on nous explique, d'ailleurs parfois on nous explique l'électrique c'est pas bien, ça marche pas, parce que quand il fait froid, ça marche pas. D'accord, Norvège, Danemark, ils sont à 90% de véhicules électriques. Il me semble qu'il fait un peu plus froid, même par rapport à Dunkerque.
Avec un taux d'équipement remarquable.
Dans ces pays-là.
Avec un taux d'équipement remarquable.
En matière de bornes de recharge, nous sommes le pays européen le plus en avance en matière d'équipement. Vous regardez tout le réseau autoroutier, vous avez des bornes de recharge dans toutes les stations-service aujourd'hui. Maintenant, dans les territoires, dans les collectivités locales, on met en place des plans de déploiement de bornes de recharge. Le vrai sujet aujourd'hui, il est un sujet presque
culturel,
de prix. On va en parler, mais aussi d'acceptation. Le Français aujourd'hui a peur d'avoir un véhicule électrique. Il se dit, je vais jamais arriver à faire le parcours. Et puis au final, c'est trois fois par an, vous avez à faire 500 km d'un coup. Mais dans vos trajets du quotidien, domicile, travail, même si vous faites 20, 30 ou 40 km pour aller au travail le matin et revenir, avec un véhicule électrique, vous avez largement l'autonomie. Si vous habitez en plus en maison, vous vous branchez chez vous, ça vous coûte 5 euros le plein, alors qu'un plein d'essence, ça vous coûte beaucoup plus cher.
Merci monsieur le ministre, merci d'être passé dans les GG, dans les grandes gueules, le ministre de l'Industrie, Sébastien Martin.